La mairie vous répond.
La mairie vous répond.
Le nouveau rendez-vous des élus de l'Île-Dieu, chaque premier jeudi tous les deux mois à 18h10 sur Neptune FM.
Deuxième numéro de la mairie vous répond, on s'intéresse aux EHPAD, les chaînes verts et Calypso ainsi qu'au CCAS et le CLIC de l'Île-Dieu. Bonjour Anne-Claude Kabilic.
Bonjour.
Vous êtes adjointe en charge des affaires sociales. Bonjour Martine Rimbaud, directrice du CCAS.
Bonjour.
Le Centre communal d'action sociale. Bonjour Anouk Guinchard, animatrice au CCAS.
Bonjour.
Et bonjour Solène Garraud, coordinatrice du CLIC, le Centre local d'information et de coordination. Bonjour Solène.
Bonjour.
Pouvez-vous nous dire quelles sont les missions et actions du CCAS auprès de la population de l'Île-Dieu ?
Les actions auprès de la population de l'Île-Dieu concernent tout ce qui, a priori a un caractère social. Alors, par exemple, nous avons de l'aide à la population pour des aides aux dossiers administratifs. On peut avoir des aides ponctuelles, financières. À côté de ça, on a des services qui sont gérés. Par exemple, on a le portage de repas à domicile. Je crois qu'on en reparlera tout à l'heure. On a un service animation. Je crois qu'Anouk va avoir un chantier. On parlera tout à l'heure aussi. on a un chantier collectif.
Pouvez-vous nous rappeler un petit peu le rôle du chantier collectif ?
Alors, le chantier collectif, son rôle, c'est d'essayer, par le biais du travail, d'essayer de permettre à des gens de se réinsérer dans le monde professionnel, mais pas seulement. La plupart du temps, on rencontre des gens qui ont non seulement un problème professionnel, mais qui ont aussi éventuellement des problèmes de santé. Donc, on essaye de les accompagner, soit vers une solution santé, soit vers une solution administrative, soit ça peut être des solutions formation. En tout cas, on essaye de les aider à monter un projet. C'est peut-être un peu gros de dire un projet de vie, mais bon, de faire un projet et de se projeter. Souvent, on a affaire à des gens qui n'ont plus le courage de se projeter et on essaie de leur faire redonner ce dynamisme.
Surtout dans le dynamisme dans le travail, non ?
Bah, de préférence, il vaudrait mieux que ça débouche sur le travail, oui. Mais quelquefois, le temps, avant de se lancer sur le travail, le temps peut être long. C'est pour ça que souvent, les gens restent 2 ans dans le chantier.
Vous nous avez parlé d'aide sociale, accompagnement dans les démarches, aide exceptionnelle.
Alors, il y a 2 aspects. Il y a des gens qui ont des problèmes administratifs, donc ils viennent nous voir, on les aide à résoudre leurs problèmes, éventuellement à téléphoner à la CAF.
La MDPH, non, aussi
éventuellement. Et en général, quand ils viennent avec des problèmes financiers, on les renvoie automatiquement sur les assistantes sociales. Puisqu'on considère qu'a priori, quelqu'un qui a un problème financier, il faut qu'il soit pris en charge dans sa totalité. Pas juste son problème de facture ou son problème de facture EDF, par exemple, ou SOR, par exemple. Mais que peut-être derrière ça, il y a autre chose. Il y a un écheveau, on dit, et non pas un écheval. Hein. Il y a un écheveau à dérouler par rapport aux aides dont la personne peut avoir besoin et puis peut-être des aides auxquelles elle n'a pas eu accès. Et voilà.
Les autres missions du CCAS ?
On travaille avec le CLIC, on a 3 autres missions puisqu'on a 3 établissements qui dépendent du CCAS. Donc il y a 2 EHPAD et il y a un multi-accueil, donc qui accueille des enfants de moins de 3 ans.
Le multi-accueil, c'est pour les jeunes ?
C'est pour les bébés, de 0 à 3 ans. Voilà.
Et que leur proposez-vous à ces enfants ?
Eh ben, le but, c'est de les accompagner. Alors, je vais dans tous les développements possibles, en particulier dans le développement psychomoteur. Ça va être plus simple à... Mais il y a d'autres aussi, il y a d'autres voies. Par exemple, on va proposer des activités adaptées. On va d'abord commencer par respecter le temps de repos, les siestes, le temps de manger, etc. On va leur apprendre à accéder à une certaine indépendance. Voilà.
Il y a aussi le minibus de transport à personnes à mobilité réduite qui est aussi important pour le CCAS, non ?
Alors, aujourd'hui, ce minibus fonctionne essentiellement avec les EHPAD, puisqu'elle permet à des gens qui habituellement ne sortent pas des EHPAD,
à aller faire des courses. EHPAD, Chenevert et Calypso, on l'appelle ?
Les deux, oui. Ça permet d'aller faire des courses, ça permet aussi d'aller faire des... revisiter une île, c'est important quelquefois pour les personnes âgées d'aller revoir des choses ou de découvrir que les choses ont changé aussi. Alors, quelquefois, on s'en sert aussi pour le transport de personnes pour des raisons médicales. Aujourd'hui, on est en réflexion sur ce moyen de transport pour le mettre à disposition via une location de personnes qui sont mais vraiment à mobilité réduite, c'est-à-dire que
qu'ils ont un fauteuil roulant, par exemple.
Oui, mais qui ne peuvent pas sortir du fauteuil roulant parce que on a ici des taxis qui vivent de leur fonction de taxi et qui peuvent tout à fait prendre une personne en fauteuil roulant si la personne peut descendre de son fauteuil et s'asseoir dans le taxi. Donc, il n'est pas question qu'on aille sur ce créneau-là. Mmh. Hein. Donc, on est en train de réfléchir sur le besoin d'un certain nombre de personnes qui, effectivement, ne peuvent pas rentrer dans les taxis. Donc là, on fonctionnerait peut-être sous forme... On est en réflexion, hein. Donc on fonctionnerait sûrement sous forme de location, en sachant que les personnes qui ne sortent pas de leur véhicule sont souvent des personnes qui ont besoin, on dit, de manipuler, même si le terme n'est pas très agréable. Et il faut savoir que la manipulation de personnes à mobilité réduite, c'est du domaine des aides-soignantes, et nous n'avons pas d'aides-soignantes proprement dit au CCAS. Voilà.
Mais par contre, il y a des aides-soignantes au Chêne Vert, non ?
Ah ben oui, mais elles peuvent s'occuper des gens des Chênes Verts. Je parle plutôt des personnes qui sont à domicile.
Il y a aussi le portage de repas qui est un aspect très important du CCAS.
Tout à fait. Donc actuellement, on distribue 12 repas jour. Les repas sont faits par les foyers de logement des Chênes Verts, ce qui a l'avantage d'avoir une alimentation adaptée à la personne âgée. Hein, c'est pas... les cuisiniers connaissent parfaitement leurs goûts, leurs habitudes, voilà. Donc le CCAS achète les repas au foyer logement et donc les revend. Aujourd'hui, c'est pareil, hein, on est en réflexion d'augmentation du nombre de repas servis. Le premier souci, c'est d'arriver à ce qu'on appelle le fameux plan de maîtrise sanitaire. C'est-à-dire qu'on doit livrer des repas à une certaine température. Bon, il y a plein d'obligations de ce type qui ne permettent pas tout de suite d'avancer sur une augmentation de la distribution. On va commencer par bien mettre tout, en particulier les problèmes de température, tout bien mettre en ordre. Et à partir de là, on pourra proposer plus de repas.
Anouk Gachard, animatrice au CCAS, quelque chose à rajouter peut-être ?
Alors, je peux parler un petit peu plus du secteur animation.
Oui,
par exemple,
je t'en prie.
On est déjà venu souvent parler de ce qu'on faisait à l'antenne de Neptune FM, mais ça, c'est pas gênant de répéter les choses, je pense, un petit peu. Donc, on propose actuellement des animations sur les EHPAD. On rappelle encore une fois que, parce que ça ne se sait pas assez, que toutes les animations qui sont proposées sur les EHPAD sont ouvertes à l'ensemble de la population de plus de 60 ans sur l'Île-Dieu. Donc, avec des ateliers aussi bien qui vont tourner autour du maintien de l'autonomie physique, je veux dire, des ateliers de gym douce, par exemple.
Ça a déjà été proposé sur l'île-Dieu.
C'est déjà proposé. C'est proposé également en extérieur. On travaille avec l'association Ciel Bleu. Donc, on le propose à l'intérieur des EHPAD. On le propose ici aussi à la Citadelle en salle 3 tous les lundis matins. Il y a encore de la place. Il y a deux créneaux, 10h, 11h le lundi matin. Les gens peuvent venir voir ce que ça donne avec Ciel Bleu. Et puis, sur les EHPAD, on travaille également avec une prof de gym douce de l'Île-Dieu, avec Jocelyne Girard, qui propose des activités aussi tous les 15 jours sur les chênes verts. Donc voilà, il y a tout ce côté où on va essayer de maintenir l'autonomie physique des personnes. Et puis, on va travailler aussi sur des activités qui vont viser plutôt l'autonomie intellectuelle. Donc, on fait notamment des jeux de réflexion, des jeux de mémoire. Et puis, on a des activités qui vont être plus dans le maintien du lien social. Par exemple, tout ce qui va tourner autour de la musique, des jeux, les incontournables loto, et puis des ateliers de discussion. On propose une multitude d'activités sur les EHPAD qui sont toutes ouvertes aux personnes de l'extérieur, donc plus de 60 ans.
Est-ce que vous faites des rencontres entre personnes âgées et personnes un peu plus jeunes ?
Oui, ouais. Oui, bien sûr, on travaille beaucoup. Vu que le CCAS gère les EHPAD et le multi-accueil notamment, le multi-accueil que les gens connaissent souvent sous le nom de la crèche, on fait des activités aussi avec les enfants de la crèche qui viennent tous les 15 jours, 3 semaines, faire des ateliers en commun avec les personnes âgées. Ça se passe très bien. On est aussi en train de monter un projet avec les trainbots actuellement, juste après les vacances scolaires pendant...
Les 9-12 ans.
Voilà, pendant 4 semaines, les trainbots vont venir tous les mercredis sur les chaînes vertes avec un projet de décoration de Pâques pour l'office de tourisme. On va faire la décoration de la vitrine de l'office de tourisme, donc toujours un projet intergénérationnel. On s'aperçoit que c'est des moments où...
sympathique, je pense.
Ouais, ouais, très sympa. Puis les personnes âgées aiment bien, ils disent, on voit de la vie, quoi. Mais en général, même sans parler des enfants, l'intergénérationnel, c'est très important, c'est très sympa. Mais l'intergénérationnel, ça peut être aussi des personnes de plus de 60 ans, mais moins âgées que les gens qu'on a dans les foyers qui viennent essayer, dans l'animation, on a vraiment envie d'essayer d'ouvrir ce lien social, de se désenclaver les EHPAD, aussi bien pour que les personnes âgées de l'extérieur s'aperçoivent qu'il y a encore une vie dans les EHPAD, qu'on y fait des choses et que c'est pas juste un lieu de fin de vie, mais c'est un lieu de vie.
Et c'est puis, important de le dire, Anouk.
Oui, j'y tiens. Et puis pour que les gens des EHPAD aussi continuent à avoir un lien avec ce qui se passe à l'extérieur sur l'Île-Dieu. Donc voilà pour ce qui se passe un petit peu dans les EHPAD. Je vais pas tenir le micro trop longtemps, je suis sûre qu'on a d'autres choses à dire. Mais, mais je vais parler un petit peu plus de ce qui se passe sur l'extérieur aussi, notamment des projets qu'on a pour 2015. Donc je parlais des ateliers ciel bleu là qui se passent à la Citadelle le lundi matin.
Salle numéro 3, on l'appelle.
Voilà, salle numéro 3 de gym adapté. On a également des ateliers nutrition qui vont commencer très bientôt, mais qui sont complets, qui vont. On va travailler avec une diététicienne et en partenariat avec la MSA. Oh, j'ai failli oublier. sur comment manger après 60 ans. Voilà, comment se faire à manger, que manger. Et puis, ils ont remporté un grand succès. On en avait fait la pub pendant la semaine bleue, la semaine des personnes âgées. Et on les a remplis très très vite, donc en fait on relance un deuxième cycle de ces ateliers nutrition qui sera au mois de mai, entre le 26 mai et la fin juin. Et puis donc il y a encore de la place sur ces ateliers-là qui seront les mêmes que ce qui va se faire là à partir de ce mois-ci.
D'ailleurs Anouk, la semaine bleue s'est bien déroulée sur l'Île-Dieu.
La semaine bleue s'est super bien déroulée, en partie grâce à Neptune FM, n'est-ce pas? Merci.
C'était fort sympathique.
C'était très sympa. On a fait un super concert participatif avec les 4L. On a une très bonne participation, plus d'une centaine de personnes sont venues pour le concert participatif.
T'avais l'impression qu'ils étaient un petit peu sceptiques, non, au début?
Je savais pas, on avait tellement... Pas sceptiques, parce que je sais que votre émission du mercredi après-midi marche bien, chanson d'hier et d'aujourd'hui.
Non, mais faire venir les gens chanter au casino.
Du coup, j'étais quand même assez confiante grâce à vous, parce que je sais que vous avez beaucoup d'auditeurs, et j'espérais que ces auditeurs viendraient au casino pour chanter. Il y a une vraie tradition de chansons à l'Île-Dieu, donc j'espérais, mais je ne savais pas.
Il y a un sacré engouement pour la chanson sur l'Île-Dieu.
Ouais. Et du coup, ça a été un super succès. Puis grâce à cet événement, on a pu aussi présenter le reste des événements de la Semaine Bleue. Notamment, on avait un atelier sur la prévention des chutes. On avait un forum du bienveillir avec différents partenaires. Et on a eu du monde aussi, moins qu'au concert. Mais on a eu plus d'une trentaine de personnes sur l'atelier de prévention des chutes, où on a touché notamment à l'alimentation aussi dans ce cadre-là. Et du coup, c'était un vrai succès et on va continuer à faire d'autres choses pour la Semaine Bleue qui se déroulera en octobre l'année prochaine. On n'a pas encore exactement décidé quoi, mais il y aura du récréatif et de l'informatif. Ça se dit informatif.
Ça se dit informatif, oui.
Voilà, donc on reviendra pour en parler. Voilà. Et puis, en attendant, on va essayer aussi de mettre en place cette année différentes choses, notamment, on sait qu'il y a beaucoup de personnes, grâce à l'enquête qu'on a fait sur les besoins des aînés, dont on parlera, on sait notamment qu'il y a beaucoup de personnes âgées à domicile qui font appel à un certain nombre d'aidants, parfois des aidants professionnels, dans ce cas-là, qui sont formés pour aider, mais aussi des aidants familiaux ou des voisins et des gens qui se trouvent souvent un petit peu isolés. Dans la démarche d'aide, d'accompagnement d'une personne âgée.
Et quelquefois démunie aussi.
Et quelquefois démunie, voilà. Donc on a envie d'essayer de proposer des ateliers de soutien aux aidants. Alors ça va pouvoir être des choses, tout n'est pas encore déterminé, mais ça peut être un soutien psychologique, ça peut être des groupes de parole. On va peut-être travailler avec une psychologue là-dessus. On aura peut-être aussi le projet de mise en place d'ateliers communication, tout ce qui est communication non violente, apprendre à mieux communiquer en général et notamment entre aidants et aidés. parce qu'on sait que les gens peuvent être aussi poussés à bout au bout d'un moment et se sentir très seuls et
démunis, comme on
disait tout à l'heure. Et voilà, et plus savoir comment s'y prendre. Et on a aussi tout un travail qui pourra être fait avec les aidants, mais aussi avec les personnes âgées elles-mêmes, sur la prévention du mal-être, même la prévention suicide, parce que on a fait des formations avec Solène du CLIC là récemment sur la prévention suicide. Dans les Pays de la Loire, sont un département, pas les Pays de la Loire, mais les Pays de la Loire sont une région où il y a un fort taux de suicide qui est bien
un
plus haut.
Un fort taux de plus. Comment on l'explique?
On l'explique pas tellement pour l'instant. Enfin, il est beaucoup plus haut que la moyenne nationale. Alors, il y a quand même dans le milieu agricole. C'est pas seulement pour les personnes âgées là. On sait que notamment les départements de la Mayenne et du Maine-et-Loire sont très touchés au niveau de la population agricole. Donc, c'est justement la MSA, qui est la caisse de retraite des agriculteurs, qui a lancé tout un programme de prévention sur le suicide et qui travaille donc avec les actifs, les populations agricoles, les retraités agricoles aussi, mais l'ensemble de la population et des personnes âgées notamment, en mettant des programmes de prévention du mal-être. Donc on sait que voilà, c'est une réalité. C'est pas toujours facile de déterminer quelles sont les personnes qui sont dans ces situations-là, parce que c'est souvent les gens qui ne viennent pas à nous justement. Donc on va aussi travailler là-dessus cette année dans des ateliers de prévention, d'accompagnement pour le mal-être.
Anouk et Martine, est-ce que vous avez l'impression que les personnes âgées sur les lieux sont seules ou mal accompagnées?
Pas tellement. Enfin, je ne sais pas si c'est le moment de parler de l'enquête, mais...
Je t'en prie, Anouk, si tu veux rebondir sur l'enquête, n'hésite pas.
Oui, je rebondis. Je rebondis sur l'enquête sur les besoins des aînés. Donc, on rappelle qu'on a... On a décidé cet été, enfin ça s'est mis en place cet été, même si on avait décidé avant, d'aller à la rencontre de toutes les personnes de plus de 75 ans sur l'île. Donc on a été voir à domicile plusieurs centaines de personnes, il y a quand même 700 personnes de plus de 75 ans sur l'île, environ 600 à domicile. Donc grâce à la mairie, on a pu, avec les listes électorales, récupérer les coordonnées de ces personnes. Et puis, on a formé, avec Solène du CLIC, une quinzaine de bénévoles pour aller à la rencontre de ces personnes âgées, pour essayer de recenser un petit peu... Enfin, c'était vraiment de faire un état des lieux.
De prendre la température.
Voilà, c'est ça. Enfin, pas physiquement.
Hein. Non, mais on a bien compris. Oui, oui.
Faire
une photo, voilà. Faire un espèce de constat, un état des lieux, de comment vivent les gens... Et du coup, d'essayer de comprendre un petit peu quels seraient éventuellement leurs besoins. Mais on n'était pas là pour essayer de trouver des solutions ou d'inventer des problèmes. C'était juste de voir comment les gens vivent, quelles sont leurs conditions de logement, à quelles activités ils font, est-ce qu'ils ont déjà des aides en place pour les aider dans leurs activités du quotidien, est-ce qu'ils ont accès à des transports. Voilà, on faisait vraiment un état des lieux de la situation. Pour pouvoir après orienter notre travail dans les prochaines années, voir où il y a des besoins. Donc, tout ce travail d'enquête s'est fait pendant l'été et début d'automne. On n'a pas encore tout à fait fini de voir tout le monde. D'ailleurs, on sait, pourtant on a pris des listes électorales, et a priori la plupart des gens sont sur les listes électorales, mais on sait qu'il y a des gens qui sont passés entre les mailles du filet. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont plus de 75 ans et qui n'ont pas été contactés pour l'enquête et qui souhaitent y participer, on est très intéressés. Donc, ils peuvent nous contacter au CCAS.
Tu peux rappeler le numéro de téléphone.
Oui, donc notre numéro de téléphone, c'est le 02 28 91 35. Toujours difficile à la radio de souvenir des numéros de téléphone. Ah, j'ai oublié un bout. 02 28 12 91 35. Et donc, il y a déjà eu plusieurs centaines de questionnaires de réaliser. Ça prend beaucoup de temps pour les dépouiller. Martine s'y est collée et n'en voit pas vraiment encore le bout. ce qui est plutôt rassurant par rapport à ça, c'est pour en revenir à ta question de...
J'allais y revenir, oui.
Voilà. C'est que... quand on a formé les bénévoles, on leur a dit, on ne savait pas ce qu'on allait trouver derrière des portes closes. C'est vrai qu'on a connaissance, à travers les activités du CCS et du CLIC, d'un certain nombre de personnes âgées. On sait plus ou moins quels sont les besoins de ces personnes-là, mais on sait évidemment que tout le monde ne vient pas nous voir et que c'est sans doute ces personnes-là qui sont le plus dans le besoin. Donc, on a vraiment formé les bénévoles pour leur dire, si vous voyez des situations qui vous semblent préoccupantes,
Voire critique, non ?
Voire critique. Vous, surtout, vous revenez à nous. Ce n'était pas aux bénévoles d'intervenir sur le coup, etc. Mais il y a eu quelques cas qui nous ont été rapportés de personnes dont les bénévoles, pour des raisons X ou Y, étaient un peu inquiets. Pendant l'interview, ils avaient pu remarquer que les personnes étaient dans une situation difficile. Et du coup, ben, avec Solène, justement, on a essayé de voir si ces personnes... Parce qu'on va pas mettre les pieds dans le plat, aller voir les gens, prendre le bas de combat, on va vous mettre au chêne vert, tout ça. Enfin, c'est pas du tout le but de l'opération. C'est vraiment de se dire, bon, ben, cette personne vous a inquiété pour une raison ou une autre. Et essayer de se renseigner auprès d'autres partenaires, la DMR, les médecins traitants, etc. Est-ce qu'ils ont connaissance de cette personne ? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont en place ? Et on s'est aperçu qu'en fait, dans tous les cas qui nous ont été rapportés, qu'il y avait déjà une prise en charge des personnes. Donc, ce qui
c'est
est rassurant...
Bon
ouais, ce qui est, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de travail. Hein. Il y a plein de choses à faire et à mettre en place. Mais en tout cas, on a été un petit peu rassurés dans le sens où on s'est dit, il n'y a personne qui est... En tout cas, notre connaissance, dans les gens qui ont participé à l'enquête, personne n'est dans une situation d'isolement vraiment critique et inquiétante. Voilà. Donc ça, c'était un premier point...
plutôt positif.
Plutôt positif. Et c'est vraiment la première leçon qu'on va pouvoir tirer de cette enquête. Voilà. Martine, je ne sais pas si tu veux rajouter des choses sur l'enquête.
On ne peut pas se baser sur... Il y a peut-être un tiers des enquêtes qui sont enregistrées. On ne peut pas se baser sur un tiers des enquêtes parce que la situation, évidemment, de personnes âgées qui sont à la Meude ou de personnes âgées qui sont à Port-Joinville par rapport... à l'accès au commerce, c'est évidemment pas la même. Voilà, les conditions de vie au port sont pas les mêmes. Je crois que pour l'instant, ça serait un peu tôt
de dévoiler les résultats.
De dire les choses sur lesquelles cela.
Il y a une petite chose que je peux peut-être ajouter qui nous a été rapportée par les bénévoles, par contre, c'est qu'ils ont été quelque part étonné mais et surpris en bien par le comment je pourrais expliquer ça par la ce qu'il y avait à, par le passé la vie des personnes âgées c'est-à-dire leur vécu c'est-à-dire qu'il y a des ils ont rencontré des tas de gens qui avaient des tas de choses intéressantes à dire qui avaient une expérience incroyable et qui auraient une expérience qui serait peut-être bonne à partager et c'est un petit peu dans l'air du temps de parler de citoyenneté à tout âge, mais je crois que c'est vraiment un créneau sur lequel il faut qu'on se penche parce que voilà, c'est pas parce qu'on est
vous
vieux,
le faites
c'est
déjà
pas.
Au CS.
Oui, on le fait déjà, mais je crois qu'il faut qu'on le fasse encore plus. C'est vraiment de se dire, c'est pas parce qu'on a 75 ans qu'on a ou plus qu'on
on a
plus
rien
à dire et plus rien à offrir à la collectivité non plus. Donc c'est aussi reprendre peut-être contact avec un certain nombre de personnes puisqu'on a demandé aux gens aussi s'ils souhaitaient être contactés par rapport aux activités qu'on fait, mais pas forcément pour eux participer à des activités, mais pourquoi pas pour être eux-mêmes des personnes ressources dans le travail qu'on fait actuellement sur l'Île-Dieu, notamment dans la prévention du mal-être. Il y a beaucoup de communes où on met en place ça s'appelle des personnes sentinelles, un peu, des personnes qui sont bienveillantes, qui sont là pour s'assurer que les gens autour d'eux vont bien. Et cette enquête va peut-être aussi nous permettre d'identifier des personnes clés comme ça, qui ont aussi des choses à offrir.
Qui sont capables d'aller à la rencontre d'autres personnes.
Tout à fait.
Et ouais. Donner du temps surtout.
Donner du temps, c'est l'avantage des retraités. C'est quoique, il y en a qui sont très occupés, mais...
Il y en a qui sont très actifs, oui. Mais et tant mieux pour eux d'ailleurs.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais il y a quand même des gens qui ont du temps et qui ont envie d'en donner, qui ont envie de se sentir utiles et on a envie de mettre en valeur ces personnes aussi.
Les résultats finaux de l'enquête seront connus quand ?
Ah
Dès qu'on le saura, on vous fera passer les résultats.
On n'a pas de date définie pour l'instant.
Non.
Non, pas du tout.
Ça demande énormément de temps.
On l'a bien compris.
Voilà. Il y a une petite chose que je voulais rajouter.
J'ai
oublié sur
sais,
l'animation.
Ça.
Après, je vous promets, je laisse la parole aux autres. C'est dans les animations.
Non, mais c'est important.
Oui, dans les animations extérieures, il y a le voyage annuel. Alors, j'avais oublié d'en parler. Et le voyage annuel qui est toujours tant attendu, on ne va pas tout révéler à l'antenne, là, comme ça.
Si.
Un scoop.
On veut des révélations, Anouk.
Un scoop.
Oui.
On peut donner des scoops comme ça. Alors, je peux dévoiler un scoop. C'est que le voyage annuel du CCAS se déroulera fin septembre. Les gens savaient que ça allait se dérouler en Bretagne, pour ceux qui s'étaient venus se renseigner. Je peux vous dire que ce sera à Douarnenez, voilà, fin septembre. Donc, les inscriptions ne sont pas encore lancées. Cependant, il faut savoir que ce voyage est ouvert à tout le monde et pas seulement aux personnes qui y ont participé les années précédentes. Évidemment, on a un nombre limité de places et on a souvent beaucoup, une cinquantaine de places. Mm-hmm. Voilà, ce que un quart, quoi, en fait, hein, un quart de 50 places en gros. Donc, il faut savoir que c'est vrai que les gens qui sont allés souvent ont passé tellement bon moment qu'ils reviennent et qu'ils courent s'inscrire. L'année dernière, on a rempli. En deux jours, le voyage était complet, en fait. En une matinée, il me restait six places et en deux jours, le voyage était complet. Mais on n'est pas du tout un groupe fermé et on a envie d'avoir toujours des gens nouveaux qui viennent au voyage aussi. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont intéressés par le voyage du CCAS qu'on organise en partenariat avec la NCV, donc on propose des tarifs quand même plutôt attractifs, eh bien, il faut qu'ils se fassent connaître.
NCV, oui.
ANCV, l'Agence Nationale des Chèques Vacances, voilà. C'est dans un programme qui s'appelle le Senior en vacances.
Mmh.
Voilà. Qui permet d'aider notamment les personnes non imposables à partir en vacances. Donc, si les gens sont intéressés et qu'ils ont envie de partir en Bretagne avec nous fin septembre, il faut qu'ils viennent se faire connaître au CCAS et dès qu'on aura un petit peu plus de précisions sur l'organisation du voyage, nous les contacterons pour qu'ils puissent venir s'inscrire. Il y aura également des informations sur les panneaux municipaux, notamment le panneau électronique et Neptune FM, bien sûr.
Forcément. Solène Garraud, coordinatrice du CLIC, le Centre local d'information et de coordination. Quel est votre rôle et vos actions au sein de l'Île-Dieu ?
Alors, le rôle du CLIC, en fait, ça va être d'informer, de conseiller et d'orienter les personnes de plus de 60 ans. En général, à CLIC, on rajoute gérontologique pour bien démontrer que l'action, c'est auprès des personnes qui ont plus de 60 ans, de leurs proches également. J'accompagne les enfants, notamment lorsqu'il y a des démarches administratives ou des choses comme ça à effectuer. Donc ça va être en effet informer les personnes âgées et leur entourage sur les dispositifs existants pour le maintien à domicile.
Surtout le maintien à domicile ?
Ça va être le maintien à domicile en priorité. Ça peut être également aussi informer les personnes lors d'une sortie d'hospitalisation sur les aides qui peuvent être mises en place, toujours dans l'objectif de rentrer le mieux possible au domicile et pas quelques jours après renouveler l'hospitalisation. Et ça peut être aussi informé lors d'une entrée définitive, on parle de définitive en EHPAD en général, ça va être informé sur les aides financières aussi. Mais après, j'interviens pas lorsque la personne est rentrée en établissement. Mon travail, c'est vraiment de permettre à la personne qui souhaite rester à son domicile, de l'accompagner dans son quotidien, dans les aides qui peuvent être mises en place pour ce faire.
Les aides, par exemple, télésurveillance ?
Alors, les aides, il y a beaucoup de domaines d'intervention au niveau du CLIC. Donc, il y a tout ce qui concerne vraiment le maintien à domicile avec informer sur le portage de repas, la téléalarme. Il y a également les services d'aide à la personne. Donc, ça va être tout ce qui est aide à la toilette quand la personne devient un petit peu plus dépendante et qu'elle n'est plus en capacité de réaliser elle-même ses soins intimes. Donc, une orientation vers les infirmières, les aides-soignantes. Ça va être également les accompagner, les renseigner lorsqu'il y a besoin d'une aide à l'élaboration des repas, une aide aux courses, une balade, etc. Il va y avoir également aussi tout ce qui concerne l'accès aux droits dans le domaine de la santé. Une personne qui a des faibles ressources pour avoir une mutuelle, c'est important quand on a plus de 60 ans. Il y a beaucoup de frais médicaux, de traitements, etc. C'est important d'avoir une mutuelle. Il faut savoir qu'il y a des aides qui existent, des aides financières. Il va y avoir aussi, donc, dans l'accès aux droits, la reconnaissance de handicap auprès de la MDPH. On en parlait tout à l'heure, la MDPH, c'est la maison départementale
des personnes handicapées.
Des personnes handicapées qui est là pour permettre aux gens qui ont un handicap d'avoir une reconnaissance et du coup d'avoir des aides financières, des cartes d'invalidité, des cartes de stationnement. Ça peut être des petites choses, mais qui au quotidien permettent vraiment de faciliter la vie des personnes âgées. Et après,
pour les plus de 60 ans, on le rappelle.
Moi, j'informe essentiellement les plus de 60 ans. Il y a également un domaine qui concerne l'habitat. Lorsqu'on vieillit, on a généralement des problèmes de dépendance qui font que ça peut être plus compliqué simplement de rentrer dans la baignoire. Donc on peut installer en ce sens une douche et je les accompagne dans, dans les démarches administratives pour faire tout ce qui est travaux à domicile. Donc en général, c'est l'exemple de la douche en baignoire qui revient le plus fréquemment. Ça peut être aussi des aides financières pour isoler la maison. On se retrouve avec une grande maison qui est ancienne, qui est mal isolée, etc. Il faut savoir qu'il y a des aides qui existent toujours pour rester le plus longtemps possible à la maison. Et il y a également les aides qui concernent le transport et les loisirs. Donc ça va être toutes les actions qu'on peut, que je peux accompagner la personne pour permettre le maintien à domicile.
Comment vous contactez au CLIC ?
Alors au niveau du CLIC, j'ai deux permanences, le lundi matin et le jeudi matin. Il faut savoir que le CLIC, le bureau du CLIC se situe juste à proximité du CCS, à la Maison des Services Publics, donc c'est l'ancienne douane.
L'ancienne perception.
Donc oui, permanence le lundi matin et le jeudi matin. Sinon, on peut me joindre par téléphone au 06 08 73 13 21. Je répète, 06 08 73 13 21 ou au 02 28 12 91 38. 02 28 12 91 38. Il faut savoir que les services du CLIC, les services que je propose sont totalement gratuits de proximité, parce que moi je suis à l'Île-Dieu, hein, et je donne une information claire et neutre. C'est important de savoir que j'ai pas, je me dois en tant que travailleur social de donner une information neutre, et je suis également vouée au secret professionnel, donc je n'ai pas à communiquer sur les personnes que je rencontre, donner des éléments.
Deux EHPAD sur l'Île-Dieu, Les Chênes Verts et Calypso, quel type de soins et d'hébergement sont proposés ? Martine Rambeau, directrice du CCS de l'Île-Dieu.
Donc dans les EHPAD, bah ce sont EHPAD, ça veut dire établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Donc les types de soins, du prendre soin, sont de trois ordres. C'est d'abord l'hébergement, et ça fait partie du prendre soin. L'hébergement, ça comprend la chambre, mais ça comprend aussi les repas, ça comprend le petit déjeuner, ça comprend la vie de tous les jours. Il y a effectivement le mot dépendance, donc ça prend en charge un certain niveau de dépendance qui peut être très légère. Ça peut pour des gens qui peuvent plus vivre chez eux, ça peut être simplement pour des raisons de peur, hein, à des choses beaucoup plus compliquées où l'intervention d'une aide-soignante formée, qualifiée est nécessaire, avec la manipulation de gens au lit, etc., etc. Et puis il y a le prendre soin, je dirais plutôt médical, en tout cas infirmier, où on va, on donne tous les soins nécessaires qui en général sont plus ou moins prescrits, enfin soit prescrits par les médecins ou en prévention de, c'est pour ça que je disais plus ou moins, ça peut être en prévention à part des infirmières diplômées. Voilà les trois types de soins. Donc, ce qui est intéressant, c'est, je vais rebondir sur une question, peut-être.
Je vous en prie, Martine Rambeau.
La loi définit très clairement la façon dont se financent ces établissements. L'hébergement, c'est le résident qui paye avec un prêt de journée. La dépendance, c'est une partie est payée par le résident, mais la plus grosse partie est payée par le conseil général en fonction de l'état de dépendance des résidents qui sont dans l'établissement, et la partie soins est payée par l'ARS via les caisses primaires d'assurance maladie, puisque c'est des gens qui auraient ces soins à domicile, des soins d'aide-soignants ou d'infirmiers à domicile. Donc en fait, c'est l'ARS qui décide. Voilà, donc c'est très très structuré.
L'EHPAD Les Chênes Verts, c'est plutôt côté hospitalisation, non ?
Non, pas du tout, il n'y a aucune différence entre eux.
Anne Kabilik, adjointe en charge des services sociaux. Il n'y a aucune différence entre Calypso et Chênes Verts.
Non, il n'y a aucune différence entre Calypso et Chênes Verts. C'est deux maisons de retraite, oui. Vraiment, c'est la même chose, c'est la même directrice. Et il n'y a pas du tout de différence. Il n'y a pas un endroit où les personnes sont plus dépendantes que l'autre.
J'ai cette impression qu'à Calypso, les personnes étaient plus autonomes, non ?
Non. C'est vraiment une impression. C'est vraiment aussi ce que beaucoup de gens pensent, une différence. Mais il y a vraiment pas de différence. Souvent, c'est un choix des personnes. Il y a des personnes qui, dans leur demande, préfèrent aller que à Calypso ou que au Chêne Vert. Mais il n'y a pas de, pour l'entrée, il n'y a pas de, de critères, on va dire, particuliers pour l'un ou l'autre.
Mais par contre, à Calypso, les gens peuvent rester toute leur fin de vie, alors qu'au Chêne Vert, non?
Ah si, 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 ça c'est un choix aussi de la personne. La personne peut rester jusqu'à la fin. C'est dans, quand la personne rentre, il y a un projet de vie qui est fait avec la directrice, les infirmières, enfin l'équipe. Et la personne choisit si elle veut rester, bien sûr, et si son état aussi le permet. Parce que c'est vrai que dans certains, peut-être dans certains cas très très particuliers, la case hôpital est, devient obligatoire. Mais dans la majorité des cas, on essaye de respecter le choix de la personne le plus près possible.
Soit d'aller à Calypso, au Chêne Vert, on l'appelle.
Voilà, c'est ça.
Martine Rabot, vous avez quelque chose à rajouter?
Oui, je voulais rajouter que dans le cadre de cette loi qui a réparti les trois sections tarifaires dans les EHPAD et qui a commencé à appeler d'ailleurs ce qu'on appelait autrefois les feuilles de logement des EHPAD, c'est justement dans le but de conventionner ces établissements pour qu'on puisse accompagner les gens qui rentrent jusqu'à la fin de leur vie. Il y a eu une avec cette loi, il y a eu un nombre de ce qu'on appelle de TP. Alors TP, c'est l'équivalent temps plein, ça veut dire le nombre de personnes soignants, infirmières et soignants qui ont vraiment beaucoup augmenté. Alors autrefois, quand on n'était pas EHPAD et qu'on n'était que foyer logement entre guillemets, c'est vrai, il y avait une infirmière seulement dans l'établissement. Voilà. Et puis, il y avait trois aides-soignantes. Moi, je me souviens, en 89, il y avait trois aides-soignantes et il y avait une infirmière. Voilà. Donc, maintenant, on n'est plus du tout dans la même situation et on a les possibilités d'accompagner les gens jusqu'à la fin de leur vie, sauf s'il y a besoin de soins infirmiers la nuit. Nous n'avons pas d'infirmière la nuit. Donc, en général, c'est plutôt l'EHPAD, parce que c'est aussi... Il y a une partie de l'hôpital qu'on appellera long séjour ou EHPAD, enfin, chacun appelle un peu comme il veut, où là, il y a une infirmière de nuit qui est... Et c'est vrai que s'il y a des soins de nuit purement infirmiers, des soins techniques purement infirmiers, effectivement, là, on ne pourra pas maintenir la personne dans ce logement. Mais l'idée de base, c'est bien que la personne rentre dans ce logement et il reçoit tous les soins dont elle a besoin, je vais dire quel qu'il soit.
Donc, la nuit à Lille-Dieu, il n'y a pas de soins. C'est ce que vous essayez de nous expliquer.
Ah, il y a du soin, mais pas du soin infirmier. Voilà. C'est pas tout à fait la même chose. Mais le soin, bien sûr.
C'est pas complètement la même chose. Hein.
Bien sûr, il y a du personnel aide-soignant la nuit.
C'est bien de le préciser, parce que vous m'avez fait peur un petit peu.
Et le personnel, c'est pas les infirmières qui délivrent le plus de soins dans cet établissement. Ce que je vous disais au départ, le soin, c'est déjà d'apporter le petit déjeuner aux personnes âgées. C'est déjà de les servir à table. Le premier des soins, il est là déjà.
Le prendre voilà. soin.
Le prendre soin.
Le prendre soin.
Dans cette émission, les auditeurs peuvent eux aussi poser des questions sur les thèmes qui sont annoncés en avance par courriel à lamairievousrépond@neptunefm.com ou directement en se rendant à la mairie de Lille-Dieu. Et donc, la première question auditeur de ce jour, est-ce vrai que l'EHPAD Les Chênes Verts ne peut plus accueillir de personnes?
Alors, c'est vrai qu'on entend ça beaucoup dans Lille et pour l'instant, je vais expliquer sans rentrer dans les détails ce qui se passe.
Vous pouvez rentrer dans les détails.
Non, parce qu'alors là, ce serait trop long. Et...
On a un peu de temps.
Il faut commander les pizzas.
Ouais, voilà. Non, pour le moment, c'est vrai que pour le moment, on n'accepte plus. Enfin, on accepte. On ne prend plus de personnes dans les EHPAD. On est
ni EHPAD Calypso, ni EHPAD
Chêne Vert. Ni EHPAD Les Chênes Verts, non. C'est que on attend une réponse du sous-préfet pour des travaux qui doivent être réalisés pour la sécurité des deux EHPAD.
Quel type de travaux?
Et alors des travaux, c'est surtout la sécurité incendie, voilà.
Donc il y a des normes.
Ça peut être des portes ou coupe-feu, entre autres des encloisonnements des escaliers. Faire un plancher au niveau des chênes verts, au niveau de l'atrium, je sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais c'est la partie centrale, on va dire, qui est ouverte jusqu'au toit. Donc il y a plein de travaux comme ça. Les normes qu'il y avait il y a quelques années ne sont plus les mêmes que maintenant. Et quand il y a eu la commission de sécurité, forcément, nous étions pas au point.
pas aux normes, on peut le dire.
Ouais, voilà. Et nous, on a toujours eu envie la restructuration, donc de mettre qui en 2017-2021. Et donc, c'est vrai qu'on se disait, on peut peut-être, il y a peut-être des choses qu'on peut peut-être pas faire maintenant, vu que va y avoir un grand projet. Et en fin de compte, non, Monsieur le sous-préfet nous a bien dit que il n'en était pas question. Et donc, en attendant, peut-être qu'il va falloir libérer des chambres pour que les normes soient mises en place, parce qu'on ne pourra pas faire tous les travaux. Donc, ce serait jusqu'à 8 chambres. Donc, forcément, les personnes qui sont dans ces chambres, qui sont déjà dans les établissements, surtout pour les chênes verts, va falloir les remettre peut-être dans une autre chambre. Donc, il va nous falloir des places de libre parce qu'on va pas mettre les gens dehors, bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, c'est vrai qu'il se dit sur l'île qu'on n'accepte plus personne. Donc, c'est la vérité.
Voilà.
C'est juste pour un temps, quoi. On attend vraiment la réponse du sous-préfet qui devrait arriver d'ici le mois de mai.
Martine Rambeau, quelque chose à rajouter ?
Oui, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est dans la période où on a proposé des projets au sous-préfet.
Mm-hmm.
Alors, on a dit, tiens, on va faire tel et tel travaux. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est quand même un petit peu complexe. Et donc, on attend que le sous-préfet nous dise oui ou nous dise non, s'il faut retravailler sur le projet ou pas. Voilà. Donc, pour l'instant, on est dans une période d'attente et il serait malvenu de faire rentrer quelqu'un pour lui dire demain, bah écoutez, je suis désolé. Voilà. Donc là, pour l'instant, on attend la réponse. Pour Calypso, on suppose pouvoir avoir la réponse assez prochainement. Pour les chênes verts, ça sera un peu plus long parce que
pourquoi ça va être un peu plus long?
À cause de ce problème d'atrium, parce que on va effectivement encager l'escalier pour éviter que s'il y a un feu dans l'escalier, il se propage partout. Et ça permet aussi aux pompiers de pouvoir monter les escaliers sans être embêtés par la fumée. Hein, tout simplement, parce que la fumée, quand il y a de la fumée, ça, on voit plus rien. Hein. Et le problème, c'est l'atrium. Il faut mettre des planchers, entre tous les niveaux. Donc, au premier, au deuxième et au troisième, il va falloir mettre des planchers. Il y a des trous aujourd'hui. Et ça, c'est des choses qui... Alors, moi, j'y connais pas trop grand-chose en bâtiment, mais apparemment, c'est des structures qui sont suffisamment lourdes pour avoir une incidence sur l'ensemble de la tenue du bâtiment. Donc, il y a besoin de faire des études importantes.
Et il faut savoir aussi que les chênes verts et Calypso, c'est pas les mêmes... comment on pourrait dire ?
Normes ?
Non, ah non, ça c'est les mêmes normes.
C'est les mêmes normes, ouais. On est d'accord.
Non, okay. C'est que les mêmes propriétaires, entre guillemets, c'est que le bâtiment Calypso, c'est la mairie, appartient à la mairie.
Mm-hmm.
Donc s'il y a des frais à engager, c'est la mairie. Par contre, les chênes verts, c'est Vendée Habitat. Donc le prix des travaux est compté du coup dans le loyer que payent les résidents. Donc tout ça, ça a un coût, tout ça, c'est à calculer, à prévoir, voilà.
En gros, on en saura plus au mois de mai, c'est bien ça ?
Voilà.
Ouais.
Normalement, Calypso, avant.
Avant, oui. On n'a pas de date prédéfinie ?
Non, on attend. Nous aussi, on aimerait bien que ça vienne le plus vite possible. Ouais. Mais on
et
a
les
pas
chênes verts, le mois de mai ?
Normalement, avant le mois de mai, les chênes verts, ouais.
Martine Rambeau, oui.
Oui, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'il y a une différence importante pour l'organisation des secours en cas de problème dans ces établissements, c'est que Calypso est un petit établissement où il n'y a qu'un étage, alors que les chênes verts, il y a quand même 3 étages, plus un sous-sol avec des services techniques dans le sous-sol. Donc, on est sur un établissement qui est, pour les secours, pour les services des secours, beaucoup plus difficile à évacuer, bien sûr. Voilà.
Et si des gens ont besoin de soins, comment que ça va se passer s'il n'y a plus de chambres disponibles ?
Ils seront redirigés d'abord vers l'hôpital et en dernier lieu...
L'hôpital de Chalon ?
Non, d'abord l'hôpital de Lille-Dieu,
ouais.
Si c'est possible. Et bien sûr, oui, s'il n'y a pas de choix, ce sera le continent, malheureusement. C'est quelque chose qu'on essaye d'éviter, mais on ne peut pas dire que pour l'instant, on pourra l'éviter jusqu'au bout, malheureusement.
Vous êtes dans l'attente.
Voilà, et c'est long.
Et c'est long. Le projet de restructuration.
Le projet de restructuration, jusqu'à maintenant, il était bien parti. On espérait lancer, Vendée Habitat espérait cette année pouvoir lancer le concours d'architecte et tout ça. Parce que la prévision était de commencer en 2017. D'abord commencer par la, la remise en état et remise bien aux normes de tout la partie déjà chêne vert, et après construire du neuf pour l'agrandir, pour que Calypso puisse venir. Et donc voilà, maintenant avec tout ce qui se passe, va falloir recalculer tout. Voilà, donc je pense que ça va peut-être du coup retarder un peu ce projet, mais ça va se faire.
Anouk, du CCAS, quelque chose à rajouter ?
Non, je voulais juste rebondir sur ta question tout à l'heure de s'il y a des personnes qui ont besoin de soins, ben, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Et de toute façon, voilà, je pensais que ça allait aussi dans la lignée du travail qu'on réalise avec Solène aussi. On sait que de toute façon, on aura de plus en plus de personnes âgées sur l'Île-Dieu. C'est la tendance nationale, elle est encore plus vraie sur l'Île-Dieu. Et c'est aussi tout l'intérêt d'essayer de travailler pour que les gens puissent rester à domicile et avoir des soins aussi à domicile, puisque de toute façon, c'est quand même la volonté de la majorité des personnes, c'est de rester vieillir chez eux. Et voilà, grâce au travail notamment qu'on mène avec le CLIC, et grâce aussi à ce qu'on va faire suite à l'enquête et comment on va orienter notre travail dans les années futures, on va faire aussi tout pour qu'on mette tout en œuvre au niveau des partenariats sur lesquels on peut travailler, mais aussi des services communaux pour que les gens puissent rester chez eux et avoir des soins chez eux également.
Deuxième question, auditeur, avant de terminer l'émission, une question qui concerne les repas des EHPAD. Est-ce envisageable de fournir localement des produits frais, par exemple pour des légumes qui seraient produits sur l'Île-Dieu ?
Alors, c'est fait au multi-accueil, hein, il n'y a pas de souci.
C'est bien de le préciser.
Le mode de fonctionnement des EHPAD, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, l'hébergement est entièrement payé par les résidents et non pas du tout au multi-accueil, c'est pas le cas, hein, donc c'est la mairie qui va financer la différence de coût. Maintenant, on avait essayé il y a très très longtemps, on s'était surtout confronté au problème de quantité. Donc voilà, il faut qu'un si on parle de producteur local, il faut un producteur local qui puisse assurer donc une centaine de repas, et ce de façon régulière, toutes les semaines, etc., etc. Donc c'est pas toujours très simple. Hein. Mm-hmm. Moi, par contre, si des personnes sont intéressées, il faut qu'elles viennent faire des propositions. Hein. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on verra.
Vous êtes là pour répondre aux questions.
Bien sûr. Maintenant, s'il y a une différence de coût, ça peut se négocier. C'est à voir, c'est à regarder, ça se calcule. Cela dit, ce sont les résidents qui payent entièrement l'alimentation. Ça veut dire que si ça doit être une augmentation du budget, il faut savoir qu'on doit avoir l'autorisation du Conseil général. Alors, on travaille déjà à proximité avec les marailleurs locaux pour le poisson.
Anne-Claude Kabilic, adjointe en charge des services sociaux, quelque chose à rajouter avant de se dire au revoir ?
Non, je pense que on a tout dit, on a répondu aux questions qui nous avaient été posées. Si vraiment il y avait d'autres questions, faut surtout pas hésiter à venir au CCAS. Moi, j'y suis pas tous les jours, mais j'essaye d'y être le plus possible. Mais les filles sont là, que ce soit Yasmine, Martine, Estelle aussi, Anouk, Aurélien qui est là souvent aussi. Enfin, sont là pour répondre, et puis s'il y a besoin de prendre rendez-vous, si on veut me voir, il n'y a aucun souci, on peut me joindre aussi.
Martine Rimbaud, directrice du CCAS, à très bientôt.
Mais il n'y a pas de quoi, à très bientôt.
Anouk Gachard, animatrice au CCAS.
Non, je crois que j'ai déjà assez dit, donc je dis au revoir maintenant.
Et Solène Garraud du CLIC, le Centre Local d'Information et de Coordination, quelque chose à rajouter avant de se dire au revoir ?
Non, on a fait le tour sur les questions.
On se retrouve dans le mois, le jeudi 7 mai prochain, toujours à 18h10, pour un troisième numéro de La Mairie vous répond. Nous intéresserons aux finances de la commune de l'Île-Dieu en compagnie de Bruno Nourry, maire de l'Île-Dieu, Bruno Chopin, directeur général des services, Guy Bezéhier, troisième adjoint en charge des finances, Carole Charreau, conseillère municipale. N'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant par courriel à lamairievousrépond@neptunefm.com ou en vous rendant directement à l'accueil de la mairie de l'Île-Dieu. N'oubliez pas que vous pouvez aussi retrouver cette émission en podcast sur le www.neptunefm.com.
La mairie vous répond, le nouveau rendez-vous des élus de l'Île-Dieu. Réagissez, posez vos questions et réécoutez l'émission sur neptunefm.com.